Le sexe, ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on le fait, contrairement à ce qui se pense et se dit trop souvent. Les études prouvent que les jeunes qui ont bénéficié d'une éducation sexuelle ne sont pas plus actifs sexuellement. En revanche, ces jeunes sont par exemple plus à même d'éviter la violence sexuelle et d'utiliser des moyens de protection contre le VIH ou les grossesses non désirées. Parmi les méthodes et moyens d'information qui semblent les plus efficaces, l'école est particulièrement bien placée. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission « Ensemble faisons entendre la voix des jeunes ». Notre thème du jour porte sur l'éducation sexuelle à l'école. Merci à nos invités d'être là avec nous. Avant de poursuivre, je vais demander à chacun de se présenter. Monsieur.
Monsieur Zabirou Mohamed, je suis enseignant.
Monsieur Zabirou, merci d'avoir répondu à notre appel.
Bonjour, moi c'est Soumane Idé Nafissatou, je suis étudiante.
Nafissatou, merci d'être là avec nous.
Merci à vous.
Bonjour, je suis Brigi Amadou, moi je suis parent d'élèves.
Monsieur Brigi, merci d'être là. Comme dans toutes nos émissions, nous ne nous limitons pas à poser des questions. Nous partageons aussi des histoires vécues par des jeunes. Chers auditeurs, notre histoire du jour s'intitule « Le retour de l'école ». Je vous propose d'écouter.
Maïmouna, tu es toujours là? Je pensais que tu étais déjà rentré à la maison.
Qu'est-ce que tu faisais toujours à l'école? J'étais beau attendu, Mokhtar. Tu sais bien que papa n'aime pas qu'on rentre tard à la maison.
J'étais resté un peu bavardé avec des copains et de toute façon, je suis maintenant un homme, donc tu peux rentrer sans m'attendre.
De quoi? Et puis vous avez dit comme cela, depuis quand es-tu devenu un homme?
Je ne te dis pas, grande sœur. Avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je peux dire que je suis devenu un homme, et un vrai d'ailleurs.
Allez, Mokhtar, raconte-moi, qu'est-ce que tu as appris de si important aujourd'hui?
Une femme est venue discuter avec nous de la sexualité aujourd'hui.
Ah bon, à votre âge, on vous parle déjà comment faire des bébés. C'est pourquoi tu te considères alors comme un homme?
Non, ce n'est pas ça. Elle nous dit que notre corps va changer.
Comment ça alors?
Oui, d'abord, les organes génitaux vont grossir avec des poils autour. On en aura même sur la poitrine, les bras, les jambes, les aisselles et même le visage. Notre voix va changer, je te dis. Parfois, elle craque en devenant plus grave. C'est parce que notre larynx grandit. On va commencer à avoir des attirances romantiques pour les jeunes filles pendant cette période. Nos testicules commenceront à produire des minuscules cellules, les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont les cellules reproductives masculines. Si les spermatozoïdes rencontrent un ovule pendant une relation sexuelle avec une fille, celle-ci peut tomber enceinte. Et que notre première éjaculation se produira probablement pendant notre sommeil. Pendant un rêve, on aura une érection et on éjaculera. C'est ce qu'on appelle une pollution nocturne.
Yeah, Mokhtar, depuis quand on a commencé à parler de ce genre de choses à l'école? Nous, on ne nous a jamais parlé de ça.
Ah bon? Nous, elle nous a aussi dit que quand on décidera d'avoir des rapports sexuels, il faudra qu'on se protège pour ne pas attraper des maladies comme les maladies sexuellement transmissibles et le sida. Mais avant tout, il ne faut pas être pressé car un rapport sexuel, c'est un acte responsable.
Yeah, Mokhtar, Lelle, à ton âge, moi, personne ne m'a parlé de sexualité. Même lorsque j'ai vu mes premières règles, j'ai eu peur et j'ai beaucoup pleuré parce que je croyais que j'étais malade. J'aurais bien aimé avoir ces informations avant. J'espère que la prochaine fois, votre femme viendra dans notre classe.
J'ai hâte de raconter tout cela à papa.
Ah, si tu oses parler de ça à papa, il va vraiment se fâcher.
Et pourquoi?
Tu sais bien qu'on ne parle pas de la sexualité à la maison. Alors je te conseille de te taire avant que papa ou maman ne nous entendent.
Pour mieux comprendre ce qui se passe dans son corps quand on grandit, savoir que garçons et filles, hommes et femmes, nous avons des droits et que notre corps est protégé par des lois. Apprendre qu'on peut éviter des maladies sexuellement transmissibles ou les grossesses non désirées, l'éducation sexuelle peut apporter beaucoup aux élèves. Mais qu'en pensent les citoyens et citoyennes? Quelques-uns nous répondent à travers ces micro-trottoirs.
L'éducation sexuelle à l'école, bon, selon moi, je ne vois aucune importance là-dessus. Parce que quand on, religieusement, je vais parler islamiquement, quoi. Religieusement, ce n'est pas conseillé. Parce que du point de vue islamique, ça gâte les enfants.
Nous sommes dans une communauté très complexe. Sinon, l'éducation sexuelle est très, très, très importante dans les établissements, et dans les établissements primaires, secondaires et même universitaires. Parce que comme vous voyez tout de suite, dans nos communautés, le sexe est d'ailleurs un tabou. Quel qu'en soit, le parent n'ose parler du sexe à l'enfant. L'enfant de 12 ans qui ne sait pas tout de suite c'est quoi les règles et a des difficultés à les gérer. Les premières règles de la fille, le plus souvent, surtout l'élève, elle la rencontre en classe. Et ce serait une grande honte pour cette fille pour pouvoir regarder ses camarades. Deux, l'enfant en tant que tel, ça a l'avantage à tous les niveaux parce que ça lui permet vraiment de s'organiser et de s'abstenir, mais aussi vraiment de contenir sa vie, comme on le dit. L'éducation sexuelle est très importante.
À l'école, l'éducation sexuelle est très importante parce que l'enseignant prend soin vraiment d'indiquer à l'enfant les portes qui vont l'aider vraiment dans sa vie de sexualité. Si j'ai dit les portes qui vont l'aider, c'est par rapport au centre Amis des Jeunes et aussi par rapport au centre PF qui sont là pour aider les enfants. Et aussi vraiment l'éducation à l'école, c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'école aussi, les élèves entre eux se cherchent. Si j'ai dit entre eux se cherchent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre eux, il y a des rapports sexuels non protégés. Et il y a des grossesses non désirées qui peuvent survenir grâce à cela. Les enseignants vraiment d'expliquer ça aux élèves. Que s'il y a une vie sexuelle à l'école, ok, on refuse pas parce qu'on ne peut pas contrôler l'enfant à un certain niveau, mais quand même, on prend soin de vraiment expliquer, d'expliquer à l'enfant ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et après avoir fait l'acte, quel sera son résultat. Au cas où l'enfant a une maladie sexuellement transmissible, qui survient vraiment des rapports sexuels, ou bien qu'il soupçonne qu'il a eu une maladie sexuellement transmissible, là où il doit se référer.
L'éducation sur la sexualité à l'école, c'est une bonne, c'est très important pour les filles, et parce que ça va apporter beaucoup de choses à la fille. Ça va permettre de ne pas avoir au moins des grossesses non désirées. Avec les grossesses précoces.
Par exemple, aujourd'hui, dans une école, quand on fait une activité récréative, le lendemain, il faut voir dans les toilettes ce qui se passe. On a vraiment des préservatifs jetés un peu partout. Et ce qu'on a pu voir même, il y a d'autres qui n'utilisent même pas les préservatifs.
Chers invités, je vous propose maintenant de réagir à ces micro-trottoirs et d'échanger avec nous. Monsieur Amo Birji, vous êtes là en tant que parent. Vous êtes pour ou contre l'éducation sexuelle à l'école?
Vraiment, je suis pour l'éducation sexuelle à l'école.
Et selon vous, pourquoi certains parents ne veulent pas qu'on enseigne l'éducation sexuelle à l'école?
Ça veut dire que certains parents pensent qu'avec la religion, avec les religions, c'est un grand tabou de parler aux enfants de sexe. Ça, ils pensent. Alors que ce n'est pas ça. Et l'éducation à l'école permet à l'enfant de se découvrir lui-même et découvrir les problèmes qui lui arriveront. Vraiment. C'est pour cela que je suis pour l'éducation sexuelle à l'école.
Et mademoiselle Nafissatou, vous a-t-on déjà parlé du sujet lié à la sexualité ou à la vie familiale à l'école?
Ah oui, évidemment, au cours de nos cours d'économie familiale et sociale, on nous parle souvent de ça.
Et comment ça s'est passé?
Non, ça se passait très bien, pas de grands problèmes, puisque ce sont déjà des jeunes qui sont grands, qui sont éduqués. Je crois que normalement, il n'y a pas de problème pour eux. Le problème, c'est surtout de parler de l'éducation sexuelle aux jeunes qui n'ont pas pu la chance d'aller à l'école. C'est surtout ça le problème.
Donc, imaginerez-vous que vos professeurs apportent facilement ces informations?
Oui, si on est normalement formé et les jeunes sont très curieux sur ces sujets-là, puisque c'est un sujet tabou qu'on n'a pas cette chance d'être éduqué sur ces points à la maison. Donc, les gens sont très curieux et impatients. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Il n'y a pas trop de problèmes sur ce point.
Monsieur Zawirou, vous êtes là en tant qu'enseignant et vous êtes en même temps directeur d'école. En tant que professeur, pensez-vous qu'il y a des avantages à enseigner l'éducation sexuelle à l'école?
Bien, merci beaucoup et nous vous remercions vraiment de nous avoir invités sur ce plateau pour parler donc de ce thème combien important qu'est la sexualité, surtout au niveau donc de l'éducation et dans nos écoles. Je pense que ce thème il est important. D'abord, pour nous les enseignants, il ne faut même pas aller d'abord voir la sexualité. Nous étudions l'anatomie de notre corps en tant que tel. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'à la sexualité? Et effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, la jeunesse en tant que tel, elle est vraiment sexuellement active. Mais quelles sont les conséquences? C'est ça la question qu'il faut parler. Parce qu'on parle religieusement, c'est pas bon, ceci, cela, non. Mais comment prévenir cette jeunesse sexuellement active et comment la protéger? Donc, je pense que c'est ça aussi le rôle régalien de l'école que nous autres enseignants, nous devons vraiment faire pour tout, pour aider ces jeunes que nous encadrons sur plusieurs plans.
D'accord, je retourne toujours vers vous, M. Zabeirou, en tant que directeur, en même temps prof de l'école. Et aujourd'hui, quand on fait la genèse d'un pays, on voit que certains profs refusent de parler de la sexualité alors que c'est leur devoir d'informer les enfants sur ce qui est de l'anatomie dont vous venez de dire, mais ils ne le font pas. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ceci?
Ce que vous dites, vraiment, nous le vivons, surtout au milieu donc scolaire, avec aussi les deux jeunes qui sont là, parce que l'enseignement aussi, c'est des enseignantes et des enseignants qui composent aussi le corps enseignant. Je pense que en tant qu'enseignant, vous avez le devoir de faire la part des choses. Le corps, c'est autre chose, et la vie familiale aussi, c'est autre chose, parce que le corps regroupe les deux. En tant qu'enseignante ou en tant qu'enseignant, nous sommes mère ou père. Et vaut mieux prévenir que guérir, parce que je pense une fois que moi, en tant que un parent, deux enseignants, je pense que j'ai les moyens de contrecarrer au-delà de ma famille, mais aussi l'autre société qui est surtout composée de la jeunesse comme je viens de l'évoquer. Donc, nous avons le devoir de parler de la sexualité à l'école. Maintenant, ne pas le faire, je pense que c'est notre rôle, nous, surtout les directeurs, parce qu'un directeur d'école, par exemple, a le rôle donc d'encadreur, qu'il a un rôle pédagogique pour encadrer aussi ses adjoints. Donc, il faut qu'il y ait de temps en temps, au lieu que nous partons toujours dans nos programmes, qu'on prenne un petit temps entre nous et mettre le sujet sur la table. Et qu'on doit en parler d'abord entre nous et à la suite au niveau des élèves.
Mademoiselle Nafissatou, en tant qu'un jeune, en tant qu'élève, que pensez-vous concrètement que vous, en tant que jeune, l'éducation sexuelle peut vous apporter?
Beaucoup de choses. D'abord, c'est une éducation. Et comme on l'a dit, l'éducation n'est jamais de trop. Il faut être éduqué sur tous les plans. D'abord pour la jeune fille, pour les deux, et les garçons et les filles, c'est une très bonne chose, mais surtout pour la fille, puisque c'est la fille que si elle n'est pas éduquée, elle ne sait pas trop de choses à faire, elle risque de mettre en péril sa scolarité, puisque une fille qui en pleine année scolaire a une grossesse non désirée, je crois que ses études sont parties en l'air. Donc, je crois que c'est surtout pour la fille qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut l'éduquer sur ces points. Elle doit savoir ce qu'elle a à faire et ce qui peut lui amener des problèmes.
Zabeirou, je reviens toujours de votre côté. Et cette fois-ci, c'est de savoir d'une manière générale quels pourraient être les obstacles pour parler de l'éducation sexuelle à l'école.
L'école ne peut pas être en déphasage de la société. Donc, deux fois, c'est ça l'obstacle, parce que on pense que ce que les autres disent en dehors de l'école, si moi je l'ai dit, qui fait partie du programme, Donc, aussi, ça va se retourner contre moi. Je viens juste pour un point qu'on parle de la religion. Non, religieusement, il faut aller au fond pour voir quel est l'apport de la religion par rapport à l'éducation sexuelle. Malheureusement, je reviens, je le dis encore une fois, malheureusement, aussi à notre sein, on a aussi cette vision de la société, cette vision de l'entourage, qu'on pense qu'on est dans un carcan, qu'il y a des tabous, parce que dans la société, s'il faut l'appeler traditionnelle, parler du sexe est tabou et qu'à l'école, on ne devait pas le faire. Non, je pense que elle est là, la jeune étudiante, elle est en train de le dire. Je pense que vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, si une jeune fille, d'abord, il ne faut même pas aller à terre, de la sixième jusqu'en troisième, si une fille donc, contracte une grossesse, c'est fini, elle arrête les études. Prendre un petit temps là, en tant qu'enseignant, dire aux élèves, faites attention les jeunes filles. Dans l'école, dans la classe, si vous contractez une grossesse non désirée, vous êtes exclu. Je pense que c'est déjà beaucoup. Vous avez fait beaucoup à vos élèves filles. Et aujourd'hui, nous le vivons. Malheureusement, vous allez voir des élèves qui sont brillantes, mais les cours de l'histoire les a attrapés en plein, comment ça s'appelle, cycle secondaire. Donc pour moi, il faut qu'on dépasse de loin cette histoire des tabous. Il faut qu'on en parle. Franchement, moi, aujourd'hui, je suis content parce que je vois ce qu'on appelle les Makranta qui dirigeaient les jeunes filles, les femmes. Je vois que chaque fois, elles ont un thème sur l'éducation sexuelle. Parce qu'au moins, dans ce genre de Makranta, c'est des adultes. Quand je dis adultes, femmes et des jeunes qui sont en train de suivre le cours par rapport donc au cours coranique. Et je pense que ces enseignants, ces enseignantes profitent pour amener aussi leur pierre à l'édifice. Donc, quelque part, ni la religion vraiment n'interdit de parler de la sexualité. Mais comment approcher maintenant les jeunes de toute façon, ce n'est pas aller leur dire d'aller faire. Mais quand vous allez faire, voilà les risques que vous encourez. Donc, pour moi, que ce soit l'éducation familiale, l'éducation à l'école ou bien l'éducation coranique, tout ce temps que nous sommes, nous avons vraiment un devoir de parler de la sexualité à nos jeunes enfants, à nos jeunes élèves. Surtout, je rappelle, surtout les filles qui font le fruit de cette inconséquence. Parce qu'au Niger, un moment, on dit à partir de la troisième, tu peux aller accoucher et revenir. Mais maintenant, tu ne peux même pas le faire parce que le poids de la société en dehors de l'école, juste sur la jeune fille, comment tomber enceinte et n'étant pas mariée. Deux, comment regagner son établissement. Et je l'ai entendu dans votre micro-trottoir, certains l'ont dit, que c'est entre eux-mêmes les élèves. Et effectivement, nous rencontrons des élèves que c'est leurs collègues garçons qui les ont enceintés. Donc, je pense que ça revient à nous, d'abord professeurs, enseignants, qu'on soit enseignante ou bien enseignant, de faire tout pour prendre le programme sur la sexualité et le dispenser normalement comme il le convient à nos jeunes élèves.
Je reviens de l'autre côté du parrain d'élèves, M. Hamadou. Tout de suite, dans son intervention, M. le directeur de l'école disait que l'éducation est vraiment primordiale pour les enfants. Et vous aussi, vous êtes un parent qui est pour l'éducation sexuelle à l'école. Est-ce que ça veut dire que dès à la maison, les enfants sont éduqués sur ces sujets-là?
C'est-à-dire normalement, dès à la maison, un parent conscient doit éduquer son enfant en lui parlant de sexe. Parce que sans l'éducation à l'école et l'éducation au niveau de la famille, vous savez, nous sommes dans une génération où la technologie a évolué. Ça permet aux enfants de découvrir beaucoup de choses et imiter. Sans l'éducation à l'école et familiale, ils vont imiter beaucoup de choses qui vont les blesser. Il arrive un temps où ils vont imiter, surtout de la télé, de l'internet, partout, ils vont voir des choses qui vont les blesser. Donc c'est pour cela, nous parents, nous voudrons que tous parents doit éduquer son enfant dès à la maison d'abord, avant d'aller à l'école.
Merci, chers invités, pour ces échanges. Pour rappel, vous suivez toujours votre émission « Ensemble faisons entendre la voix des jeunes ». Et notre thème du jour porte sur l'éducation sexuelle à l'école. Après ce débat avec nos invités, je vous propose d'écouter l'avis de notre spécialiste pour votre rubrique « Éclairage d'un spécialiste ». Nous avons avec nous aujourd'hui Mme Megizore Kiatouzada, inspectrice professeure d'économie familiale et sociale, également membre de l'Association nigérienne des économistes familiaux et sociaux. L'éducation à la vie familiale ou la vie sexuelle à l'école a-t-elle vraiment fait ses preuves?
L'éducation à la vie familiale à l'école ou sexuelle, comme vous dites, est-ce qu'elle a fait ses preuves? Je dirais en tout cas qu'elle a parcouru son bonhomme de chemin, parce que du temps où moi j'ai commencé à exercer la profession de professeur d'économie familiale à aujourd'hui, ça fait quand même des années. Et j'estime que les jeunes ont beaucoup plus d'informations sur leur corps, sur le développement de leur sexualité, sur les dangers qu'ils courent à travers une non-maîtrise de leur sexualité et toutes les conséquences que cela engendrerait. Donc peut-être que le résultat n'est pas probant du fait de certains pesanteurs socioculturels, mais je dirais quand même qu'il a fait quelque peu ses preuves.
Et a-t-on des exemples de réussite en la matière dans la chirurgie?
Dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, on a introduit dans les programmes d'enseignement, les programmes d'économie familiale et sociale, d'éducation à la vie familiale et sociale. Est-ce qu'ils ont été évalués pour pouvoir affirmer qu'ils ont fait leurs preuves? Je ne pense pas, parce que dans plusieurs établissements, si vous passez, vous trouverez qu'il n'y a pas en réalité d'éducation sexuelle proprement dite. Il y a des cours de reproduction, juste, on informe juste les enfants sur l'accouchement, sur les organes génitaux. Mais les besoins des adolescents aujourd'hui, je pense qu'ils vont au-delà et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là. Donc, il va falloir vraiment redoubler d'efforts pour faire la formation conséquente des enseignants, pour également concevoir des manuels d'accompagnement, aussi bien des maîtres que des jeunes, et permettre donc à ce que cet enseignement soit probant et qu'il donne réellement les résultats qu'on escompte. Et quels résultats sont escomptés? Et c'est lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les IST, VIH, SIDA, les grossesses précoces. Je ne dirais pas anéantir, mais en tout cas réduire au maximum les grossesses des enfants, des filles à l'école et permettre donc à ces jeunes-là de poursuivre leurs études normalement. Or, sans une éducation sexuelle telle que je l'ai décrite tantôt, je pense que les résultats, on ne peut pas dire qu'ils sont probants. Donc, il y a encore des efforts à fournir au niveau des États. Comme le Sénégal, ils sont en train de mettre en œuvre l'éducation à la vie familiale dans les écoles primaires comme secondaires. Au Niger, on a commencé depuis 1988 l'éducation à la vie familiale et à la sexualité, entre guillemets, dans les programmes d'enseignement secondaire et sous des formes beaucoup plus timides dans l'enseignement primaire. Donc, vraiment, dans la sous-région, je ne peux vous citer de succès en tant que tel par rapport à l'éducation sexuelle.
Tout de suite, vous avez évoqué l'éducation de la sexualité dans les écoles primaires ou secondaires. Et est-ce que vous trouvez que cette éducation est adaptée à l'âge?
Toute éducation peut être adaptée à l'âge. Ça dépend des termes qui sont utilisés, de la manière dont l'éducation est faite. Si on doit faire de l'éducation sexuelle à l'école primaire, bien sûr qu'on ne viendrait pas parler de sexualité comme on le ferait à des jeunes adolescents de 17-18 ans. Donc, pour les enfants du primaire, c'est juste à travers des jeux de scénettes ou bien des images qu'on démarre l'éducation à la vie sexuelle. on leur montre un peu l'hygiène intime, comment elle doit être menée. On peut leur montrer papa et maman en famille. Et voilà que maman est grosse et qu'elle va aller à la maternité. Donc, elle se retrouve avec un bébé entre les bras. Ou bien, on peut montrer des oiseaux qui ont eu des petits, etc. Donc, c'est comme ça qu'on attire l'attention des enfants sur la sexualité à l'école primaire. Maintenant, une fois au collège, on peut appeler un chat un chat. On peut leur parler réellement des organes génitaux. On peut leur parler même des rapports sexuels, ce qu'ils induisent et quels sont les risques qu'on encourt quand on exerce une sexualité désordonnée. Et donc, comment il faut réellement les éduquer à l'école pour qu'ils puissent grandir en adultes raisonnables et raisonnés. Et donc pouvoir gérer leur vie sexuelle de manière assez, je dirais, efficiente.
Merci à Madame Megiso Rekiatouzada pour ces éclairages. Maintenant, nous allons évoquer un blocage à lever dans les années à venir. Monsieur Amadou, selon vous, comment pourrait-on rassurer les parents et éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
Il y a des bureaux de parents d'élèves. On doit les sensibiliser, les parents d'élèves là. On doit les sensibiliser à travers la sexualité. À arriver à la maison, ils peuvent, en matière de sexualité, parler à leurs enfants. Parce qu'à la maison, ça ne sert à rien de ne pas parler avec ton enfant. Il ne peut pas avoir, honte de parler avec ton enfant en matière de sexe. Si tu arrives à lui faire comprendre ce que c'est le sexe, il va éviter les problèmes qui lui arriveront.
Mademoiselle Nafissatou, selon vous, comment pourrait-on rassurer vos parents et à éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
Il faut d'abord la communication et la base. Il faut communiquer avec nos parents. Puisque eux, ils sont à la maison, ils ne savent pas ce qu'on nous dit exactement. Donc, ils ne peuvent pas juger. Il faut d'abord les informer sur ce qu'on nous enseigne. Ils doivent savoir, voilà ce qu'on leur dit. C'est rien de grave, rassurez-vous. C'est nos enfants, c'est vos enfants. Tout ce qu'on fait, c'est pour les protéger. Voilà, je crois que c'est le message à passer.
Zabeirou, vous venez d'entendre une élève jeune, un mot qui m'a d'ailleurs touché. C'est nos enfants, c'est vos enfants. Donc, c'est l'enfant de ses parents, également, c'est l'enfant de ses enseignants. En tant que parent, enseignant, directeur de l'école, selon vous, comment pourrait-on vous assurer et assurer les parents à éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
Pour répondre à cette question, je dirais effectivement, il faut que toutes les cibles donc concernées doivent être informées par rapport au programme, par rapport au module enseigné. Je m'explique, elle a dit un mot très important aussi, la communication. On ne communique pas par rapport à ce qui est enseigné à l'école. C'est quand on arrive, donc on dit que c'est quand c'est pourri, que ça va sentir. C'est à ce temps qu'on doit sortir les choses. Pour moi, quand il faut élaborer des manuels qui parlent de la sexualité, il faut mettre aussi et les parents pour concevoir ces manuels et les élèves eux-mêmes et nous autres enseignants. Ça ne sert à rien de se retrouver dans un bureau, élaborer quelque chose qui va à l'encontre, parce que ça ne peut pas être accepté. Pour rappel, dans ces pays, on a vu, quand on a commencé à faire la promotion des préservatifs, je pense qu'il y avait des panneaux partout dans cette ville qui ont été cassés par des religieux. Mais à la suite, quand on les a fait comprendre à travers des informations, des formations, par rapport aux bienfaits de ces préservatifs, je pense que tout le monde a accepté qu'il y ait la vulgarisation de ces préservatifs. Donc la même chose pour l'éducation sexuelle à l'école, je pense qu'il faut que tout le monde soit informé. Il a dit, le parent d'élève ici, M. Amadou, la technologie. Aujourd'hui, des classes de CM jusqu'à l'université, allez-y fouiller dans les téléphones portables de nos enfants, de nos élèves. Ce que vous allez trouver, c'est autre chose. Selon même des rumeurs, moi j'ai entendu des établissements de la place, des jeunes filles qui s'adonnent à je ne sais pas, c'est des films porno qu'ils trouvent ou bien c'est la pornographie. Donc tout ça, c'est la technologie qui les fait. Alors si on n'en prend pas garde, si on n'en parle pas, si ça s'arrête entre les quatre murs de l'école, je pense qu'on risque un jour de voir que même l'école va perdre ce qui sont ses règles de noblesse qui est l'éducation. Parce qu'on ne peut pas, concernant la sexualité, on ne peut pas dire que d'une baguette magique, on va empêcher. Non, je pense à travers la communication, à travers l'éducation, à travers des programmes bien élaborés, je pense qu'on soit père, mère, enfant, enseignant, tous, nous allons trouver que c'est une bonne chose pour la génération que nous sommes en train de protéger. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour eux.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Mais avant de finir, nous allons donner la parole à notre champion pour lancer un message. Chers auditeurs, parole de champion.
Salam alaikum, moi c'est Fatima Rico. Je suis artiste nigérienne, auteur, compositeur et interprète de mes propres œuvres.
Et pourquoi vous vous êtes engagée pour cette cause?
Je me suis engagée parce que en fait, j'ai été d'abord victime. Et puis je me dis que les filles n'en finissent pas de subir. Donc il est grand temps que cela cesse. C'est pourquoi je dis, moi seule, je ne peux pas tout changer, mais je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà pourquoi je me suis engagée, j'ai dit. De toutes les façons, si on fait quelque chose, ça peut changer quelque chose.
Quelle action menez-vous par rapport à l'éducation, à la sexualité des jeunes?
Les actions que je mène, en fait, à mon actif, j'ai un film sur l'excision de la jeune fille. Et puis, avec Anima Sutura, on fait... J'avais l'habitude de faire des animations dans les fadas, dans les écoles. Et puis, à part ça, il y a des sketchs que Animas produit. C'est moi qui compose les chansons. Une façon d'attirer un peu l'attention des jeunes filles. Et en gros, c'est ce que je fais. Et puis, je compose des chansons dans mes propres répertoires pour attirer l'attention de la population et... En tout cas, pour le changement de comportement.
Quel message adressez-vous aux décideurs?
À l'endroit des décideurs, l'appel que je peux lancer, c'est que c'est vrai, notre pays fait partie des pays qui sont en tout cas en voie de développement, je peux dire, mais il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Donc l'appel que je peux faire, c'est de croire aux ONG qui sont à leur côté pour le changement de comportement durable. Et aussi de faire en sorte que tout ce qu'ils font, comme en tout cas, il y a des textes juridiques qu'ils font, mais qui ne sont pas mis en application. Moi, je pense que si nous, les acteurs, nous faisons ce que nous pouvons, et on arrive à décrocher des lois. Il faut mettre ces lois-là en exécution. Moi, je crois que c'est la plus grande chose que l'État peut faire. Voilà, et c'est un appel que je lance à notre État pour qu'il puisse vraiment tenir compte de ça. Si les lois sont là, c'est pour être appliquées. Ils n'ont qu'à faire appliquer, c'est à eux de faire appliquer les lois. Nous, en tant qu'acteurs, on ne peut pas faire appliquer la loi, mais on peut faire en sorte que la loi soit acceptée et votée.
Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver plus de champions et de championnes engagés dans ces domaines à travers toute la sous-région sur le site generationpf.equipop.org. Nous sommes à la fin de notre émission. Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes. Et notre thème du jour portait sur l'éducation sexuelle à l'école. Pour bien entrer dans l'âge adulte, les jeunes ont besoin d'être informés et d'avoir les connaissances et les compétences qui leur permettront de faire des choix responsables concernant leur vie sociale et sexuelle. L'école a un rôle capital à jouer pour leur donner accès à une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles. La route est longue, mais le combat est juste. Ne baissons pas les bras et ensemble choisissons l'avenir.